Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 12 septembre 2023. La Libye déplore des milliers de morts dans une ville inondée. Au Maroc, les opérations de secours se sont poursuivies ce mardi, plus de 72 heures après le violent séisme qui a fait plus de 3000 morts. Au Mali, l'armée contrôle la ville de Bourem, dont l'occupation a été revendiquée ce mardi par des groupes armés du Nord.
C'est vraiment alarmant. La guerre, c'est pas bon. Ce qui s'est passé, on a vu beaucoup de morts. Moi, je suis venu à Gao pour les vacances, mais malheureusement, il n'y a pas de route.
Notre correspondant dans la région nous dira davantage sur les risques sécuritaires dans la région, dans la partie magazine. Kim Jong-un est arrivé en Russie pour s'entretenir avec Vladimir Poutine. Ne manquez pas notre page sport, ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au moins 2300 personnes ont été tuées en Libye et des milliers d'autres sont portées disparues après que des crues soudaines et catastrophiques ont rompu des barrages fluviaux et ravagé des quartiers entiers dans l'est de la Libye. Face à l'inquiétude mondiale, de nombreux pays ont proposé d'envoyer d'urgence des équipes d'aide et de secours. Alexandrine Ollognon.
La ville de Derna, dans l'est de la Libye, a enterré à elle seule 700 personnes tuées dans les inondations. Des destructions massives ont ravagé cette ville côtière méditerranéenne qui compte environ 100 000 habitants, où des immeubles de plusieurs étages se sont effondrés sur les rives du fleuve et où des maisons et des voitures ont disparu dans les eaux en furie. La situation à Derna est choquante et très dramatique, a déclaré Oussama Ali du service de secours et d'urgence basé à Tripoli. Ailleurs dans l'est de la Libye, l'organisation humanitaire Norwegian Refugee Council a déclaré que des villages entiers ont été submergés par les inondations et le nombre de morts continue d'augmenter. Le bilan indiqué par les services d'urgence libyens correspond à peu près aux sombres estimations de la Croix-Rouge et des autorités de l'est du pays qui ont prévenu que le bilan pourrait encore s'alourdir. Des équipes de secours de Turquie sont arrivées dans la région selon les autorités et les Nations Unies, ainsi que plusieurs pays ont proposé d'envoyer de l'aide.
Au moins 2300 personnes ont été tuées en Libye et des milliers d'autres sont portées disparues après que des crues soudaines et catastrophiques ont rompu des barrages fluviaux, je l'ai dit tantôt. Et quatre jours après le séisme au Maroc, les recherches continuent. Les survivants du tremblement de terre, le plus puissant qu'ait connu le pays depuis plus de 60 ans, se débattent dans des abris de fortune d'Illidico.
Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, redoublent d'efforts pour retrouver d'éventuels survivants et fournir de l'assistance dans les zones situées autour de Marrakech, principalement dans les provinces d'Al-Haouz et Taroudan. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que les autorités poursuivent leurs efforts afin de secourir, évacuer et prendre en charge les blessés. Mais elles font face à des difficultés pour accéder aux villages isolés dans les montagnes, notamment à cause des chutes de pierres ou d'érosion de sol avec des routes impraticables. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a lancé un appel de fonds d'environ 100 millions d'euros pour soutenir les opérations de secours. L'Égypte a décrété 3 jours de deuil national en solidarité avec les Marocains et les Libyens après des milliers de morts dans des inondations dans l'est de la Libye et dans le séisme au Maroc.
Des groupes armés du nord du Mali ont revendiqué aujourd'hui une offensive contre l'armée à Bourem, une ville clé, mais de multiples sources sur place parlent d'une reprise de contrôle par l'armée. Le point avec Eric Manirakiza.
Le cadre stratégique permanent CSP a indiqué avoir mené une opération sur la ville garnison de Bourem qui s'est soldée par le contrôle du camp et des différents postes avancés des forces armées maliennes et de leurs alliés d'un groupe paramilitaire russe, Wagner. Il y a eu d'intenses combats, a dit le porte-parole du CSP. Mais des témoignages font état d'une intervention de l'aviation malienne. Les groupes armés non identifiés avaient encerclé le camp et tourné en ville, mais les avions ont réagi contre eux. On n'entend plus de tirs, les FAMA, forces armées maliennes, sont dans la ville partout en nombre, a dit un habitant joint par téléphone. Bourem est un nœud près du fleuve Niger et sur la route entre Tombouctou et Gao et vers Kidal, fief Touareg, plus au nord. Aucun commentaire n'a été obtenu de la part des autorités maliennes sur cette opération qui confirmerait les craintes de reprise des hostilités entre ces groupes armés et l'État central et de fin de l'accord de paix signé en 2015. Après des semaines de tensions grandissantes, un des signataires de l'accord dit d'Alger, la coordination des mouvements de la Zawad CMA, avait indiqué lundi soir se considérer dorénavant en guerre avec la junte qui a pris le pouvoir par la force à Bamako en 2020.
Au Niger, l'ancien premier ministre Ama Amadou, un farouche opposant au président déchu, Mohamed Bazoum, est rentré à Niamey. Après plus de 2 ans passés en France, Ama Amadou a été à 2 reprises premier ministre du Niger, sous la présidence de Mahamane Ousmane, puis sous Mamadou Tandja. Il avait été accusé d'être l'un des responsables des troubles ayant suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 21 février 2021, remportée par Mohamed Bazoum, dauphin du président sortant Mahamadou Issoufou. Malade, la justice lui avait accordé en avril 2021 une autorisation de 2 semaines pour se soigner dans un hôpital parisien et il n'était plus rentré au Niger depuis. La France a annoncé aujourd'hui l'arrestation le 8 septembre par les forces de sécurité nigériennes de Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger basé au Niger, et a demandé donc sa libération immédiate. Depuis le premier jour, notre ambassade est pleinement mobilisée pour assurer la protection consulaire à notre compatriote, selon une déclaration de la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé aujourd'hui en Russie pour une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Selon Washington, cette visite pourrait déboucher sur un accord de vente d'armes pour soutenir l'offensive russe en Ukraine. Le point avec Rosine Monizero.
Parti dimanche soir de Pyongyang à bord d'un train blindé, Kim Jong-un effectue son premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il avait déjà rencontré M. Poutine au cours de son précédent voyage à l'étranger à Vladivostok en 2019. Les deux hommes doivent notamment parler de sujets sensibles dans les jours à venir, a déclaré aux médias russes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, sans prêter attention aux mises en garde américaines. Washington craint que la Russie ne s'approvisionne en armes pour ses opérations militaires en Ukraine auprès de la Corée du Nord, elle-même sous sanctions à cause de ses programmes nucléaires et de mise au point de missiles. Vladimir Poutine, qui se trouve actuellement à Vladivostok pour un forum économique annuel s'achevant mercredi, n'a pas été interrogé sur le déplacement du dirigeant nord-coréen. Le président russe a seulement dit qu'il se rendrait prochainement au cosmodrome de Vostochny, refusant de préciser ce qu'il prévoyait d'y faire.
Ici aux États-Unis, le président républicain de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, a demandé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête en vue d'un éventuel procès en destitution du président démocrate Joe Biden. Les républicains accusent depuis longtemps Joe Biden d'avoir tiré avantage financier des affaires de son fils Hunter Biden à l'étranger, à l'époque où il était vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017. La Maison-Blanche a aussitôt vivement réagi, qualifiant l'annonce d'extrêmement politique à 1 an de la présidentielle. Le président américain Joe Biden se rendra à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine pour prononcer une allocution sur les menaces à la sécurité internationale, a indiqué ce mardi la Maison-Blanche. Le président Biden, qui rentre à peine d'une tournée en Asie, qu'il a menée au sommet du G20 en Inde et au Vietnam, prononcera son discours le 19 septembre, au premier de 2 jours de sa présence à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, a souligné ce mardi dans un communiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. L'envoyé du pape François pour la paix en Ukraine, le cardinal italien Matteo Zuppi, se rendra de mercredi à vendredi à Pékin, a annoncé aujourd'hui le Vatican. Cette visite représente une étape supplémentaire dans la mission voulue par le pape pour soutenir les initiatives humanitaires et la recherche de solutions qui puissent conduire à une paix juste, a précisé le Vatican dans un bref communiqué. Monseigneur Zuppi s'était rendu en juillet à Washington où il avait rencontré le président Joe Biden. Il s'était aussi rendu début juin à Kiev où il avait rencontré le président Volodymyr Zelensky. Il s'était ensuite rendu rendu fin juin à Moscou, où il avait rencontré le patriarche orthodoxe russe. La Cour suprême d'Israël a entamé aujourd'hui une audience consacrée à des recours contre un projet de loi limitant ses propres pouvoirs que contestent depuis des mois des milliers de manifestants au nom de la démocratie. La décision de la Cour suprême, dont les débats sont retransmis en direct, ne devrait pas être connue avant des semaines, voire des mois. Et puis le procès de Google s'est ouvert ce mardi devant la justice fédérale ici à Washington, les autorités américaines accusant le groupe d'avoir contourné les règles de la concurrence pour s'assurer une situation quasi monopolistique sur les recherches sur Internet. Google assure que sa position dominante sur le marché est uniquement due au fait que son moteur de recherche est plus rapide et plus efficace que ceux de ses compétiteurs. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Rosine Monizero.
En République démocratique du Congo, des multinationales sont accusées de s'être livrées à des expulsions forcées, menaces, actes d'intimidation et tromperies contre les populations locales sur des sites d'extraction de cobalt et de cuivre dans le sud-est, déplore Amnesty International dans un rapport publié mardi. Ces populations se voient forcées de quitter leur logement et leurs terres pour permettre l'expansion de projets miniers industriels à grande échelle, selon ce rapport. Au Kenya, l'inflation est tombée à 6,7% en août, mais au cours de l'année écoulée, les prix de l'essence ont augmenté de 22%, ceux de l'électricité de près de 50% et ceux des denrées de base comme le sucre et les haricots de 61% et 30% respectivement. Le Kenya n'a pas été épargné par les retombées de la pandémie de grippe aviaire et de la guerre en Ukraine. La compagnie téléphonique Apple présente mardi sa nouvelle gamme d'iPhone avec des puces et objectifs toujours plus performants et peut-être le port de chargement universel imposé par l'Union européenne qui estime qu'il s'agit de leur simplifier la vie et de réduire la quantité de déchets électroniques créés au fur et à mesure que les chargeurs deviennent obsolètes.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Journée cruciale pour le Cameroun en éliminatoire de la prochaine CAN.
Oui, les derniers tickets seront attribués dans le groupe C au terme du match Cameroun-Burundi à Garoua. Les Lions indomptables comptent 4 points, tout comme les Burundais. Dans ce groupe, la Namibie première totalise 5 points en 4 matchs nuls entre Camerounais et Burundais. Les trois pays vont se retrouver avec 5 points chacun. La compétition aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire.
Plein de matchs amicaux aussi ce mardi.
Le Maroc fait face au Burkina Faso à Lens en France. Le Sénégal joue contre l'Algérie. La Côte d'Ivoire affronte le Mali au stade Alassane Ouattara d'Edilpé. Plus qu'un match amical, une confrontation entre Ivoiriens et Maliens a toujours été d'un enjeu important. La Ciné, Sinayoko, attaquant malien.
À la Côte d'Ivoire, tout le monde sait que c'est une grande nation de football. Tout le monde est pressé. En plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas battu la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde est pressé de jouer ce match et tout le monde a envie de gagner. Et à chaque fois qu'on porte maillot, on va tout faire pour gagner, pour rendre fier le pays. Niala Sanam.
La Ciné, Sinayoko, au micro de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
Luis Rubiales, convoqué par la justice espagnole.
Le désormais ex-président de la Fédération espagnole de football est convoqué vendredi par la justice dans l'enquête sur son baiser forcé à la joueuse Jennifer Hermoso. Après le sacre mondial de la Roja féminine, Luis Rubiales sera entendu par un juge d'instruction en tant qu'inculpé. Il devra répondre aux accusations d'agression sexuelle portées à son encontre. Cette décision fait suite au feu vert donné lundi par le juge Francisco de Rocher à la requête du parquet qui réclamait que des poursuites soient engagées contre Luis Rubiales pour agression sexuelle et délit de coercition sur Jenny Hermoso.
Tennis, Simona Halep suspendue pour dopage.
L'ancienne numéro 1 mondiale a été suspendue 4 ans du tennis suite à des infractions au programme antidopage. L'annonce est faite par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis. Simona Halep, 31 ans, a été contrôlée positive l'année dernière et a été accusée d'un second manquement antidopage en mai lié à des irrégularités dans son passeport biologique d'athlète. La Roumaine, double championne du Grand Chelem, avait été suspendue provisoirement à partir d'octobre 2022. Un tribunal indépendant a déclaré que cela compterait dans sa période de suspension totale qui s'étendra désormais du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2026. L'affaire est toujours en appel.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Lyon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La situation sécuritaire se dégrade de plus en plus dans la région avec de nombreuses attaques perpétrées ça et là au Mali, dans le nord du Mali. Les groupes armés passent à l'offensive en quelques jours. Déjà, les camps de Bamba, Gao et Bourem et le bateau Tombouctou ont été la cible d'attaques à l'arme lourde. Les populations de la région sont très inquiètes. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Après les attaques perpétrées contre le camp militaire de Bamba dans le cercle de Bourem et contre le bateau Tombouctou entre Bamba et Rarous le jeudi dernier, c'est le camp militaire des Fama près de l'aéroport de Gao qui était la cible d'une attaque complexe avec trois véhicules piégés le lendemain vendredi 8 septembre 2023. Ce matin donc, c'est la ville de Bourem qui a été attaquée par des hommes lourdement armés. Si nous n'avons pas encore de bilan officiel des camps militaires de Bamba, Gao et Bourem, le bilan de l'attaque du bateau Tombouctou serait de 49 civils et 15 soldats tués selon un communiqué des autorités du pays. Face à la reprise de la guerre entre les groupes armés et les Fama, nous avons interrogé certaines personnes dans la ville de Gao.
La situation est critique. Nous avons montré nos limites. Malgré les équipements que nous sommes en train d'avoir, nous avons montré nos limites. Il y a une négligence de la part de la chaîne militaire, donc je ne peux pas comprendre comment on peut avoir des informations sur une attaque. On ne prend pas les mesures pour contrer cette attaque. Il y a seulement une négligence, donc ça veut dire que les villes du Nord peuvent tomber à tout moment. Si on ne change pas de stratégie, ça peut tomber à tout moment.
Le camp de Gao, c'est l'un des premiers camps, les camps les plus stratégiques du Mali. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer peut-être des morts et des blessés dans le cercle de Bourem. Les ennemis de la nation ne sont plus dehors, ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur, c'est ce qui est en train de créer toute cette panique, tout ce chaos. Et c'est pourquoi quand on fait un peu allusion à l'attaque du camp de Gao, il faut reconnaître que la plupart des assaillants sont des militaires. Ils sont dans les rangs de l'armée. La situation est critique, ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais moi, je pense que nous devons avoir raison gardée.
C'est vraiment alarmant. La guerre, c'est pas bon. Ce qui s'est passé, on a vu beaucoup de morts. Moi, je suis venu à Gao pour les vacances. Mais malheureusement, il n'y a pas de route, car je vais retourner chez moi. Tout ça là à cause de ce qui est en train de se passer. Je demande aux autorités de prendre les dispositions.
C'est ainsi que le chef de l'exécutif régional, le général Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao, a pris deux décisions importantes à ses yeux. D'abord, un couvre-feu instauré sur toute l'étendue de la région de Gao à compter du 9 septembre 2023 et pour une durée de 30 jours, de 20h à 6h du matin. Puis, une autre décision ainsi libellée, la circulation des véhicules non immatriculés, des véhicules Land Cruiser et des véhicules teintés est fortement interdite entre les villes, villages, hameaux et campements sur toute l'étendue de la région de Gao. Et que seuls les véhicules militaires sont exemptés. Ces dispositions restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre poursuit la décision. Les contrevenants à ces dispositions s'exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Conclut la décision du général gouverneur de la région de Gao. En tout cas, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour et les populations sont très inquiètes. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Toujours au Mali ce mardi, des groupes armés ont mené une offensive contre l'armée à Bourem, mais avec l'appui de l'aviation malienne, la ville de Bourem est repassée sous le contrôle de l'armée. Il y a quelques jours, c'était le camp militaire de l'aéroport de Gao qui a subi une autre attaque, pendant que l'aéroport de Tombouctou reste fermé après des tirs d'obus. Sur tous ces risques sécuritaires dans la région, Idriss Fall a joint à Bamako Sékou Tangara, directeur de la chaîne Africable.
Il y a deux explications possibles. La première, c'est que l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger signé en 2015 partait déjà de l'aile. Il y avait eu des blocages au niveau des grades, notamment les grades des combattants de l'ex-rébellion. Il n'y avait pas eu d'entente à ce niveau-là avec le gouvernement du Mali. La deuxième explication, c'est lorsque le Mali est parvenu à avoir la fin du mandat de la MINUSMA. Il a été prévu que les emprises qui étaient sous le contrôle de la MINUSMA soient rétrocédées à l'armée malienne et c'est pas du bout de la chemin. Ceci ajouté au problème de grade, à la frustration liée au problème de grade, Et la FEMA essaie vraiment de se faire entendre. Si vous remarquez, la plupart des attaques aujourd'hui sont revendiquées explicitement par la FEMA, ce qui n'était pas le cas lors des précédents moments.
Mais pourquoi, en fait, les anciens rebelles Touareg ne veulent pas que l'armée malienne reprenne les camps de l'ONU?
Si on se met dans la posture de la FEMA, elle est sur l'accord, le cessez-le-feu unilatéral qui avait été signé sous l'égide du président Abdelaziz de la Mauritanie à l'issue de la visite de Moussa Mara le 21 mai 2014. Vous vous rappelez que l'armée malienne avait été faite et que le président Ibeka à ce moment-là a demandé un cessez-le-feu unilatéral signé sous l'égide de la Mauritanie. La FEMA est juste là dans cette configuration. Elle pense que personne ne doit bouger de ses positions. Et FEMA et le gouvernement du Mali, tout le monde doit rester sur ces postulats-là. Il y a une lecture différente de cela par le gouvernement du Mali qui pense que c'est une résolution de l'ONU qui lui permet aujourd'hui de récupérer les emprises laissées par la MINUSMA. Et moi, je pense que c'est comme si on est en train de vouloir jouer à la distraction, parce que après la libération des emprises de Obosabou de Ber, l'armée malienne doit remonter beaucoup plus loin vers le nord et l'est, en réoccupant cette fois-ci celle de Agolok, celle de Kidal et celle de Tessali. Et on sait que si on reste dans la configuration actuelle, la confrontation pourrait être inévitable à ce niveau-là.
Mais Kidal veut conserver son statut particulier jusque-là.
Exactement, Kidal veut conserver son statut particulier. Elle est toujours peut-être dans la configuration d'avoir un président régional élu au suffrage universel direct, configuration qui fait que l'État du Mali a un contrôle, mais seulement a posteriori. Et moi, je pense que nous sommes dans des différentes appréciations et de l'accord et du cessez-le-feu de 2014. Si l'armée et le gouvernement du Mali pensent qu'il faut réunir tout cela, il faut se conformer à la dynamique des Nations Unies, la FEMA pense que ce qui a été signé et que tout le monde doit respecter sa position. On est dans une divergence de lecture sur une situation donnée.
Sekou Tangara, directeur de la chaîne Africable à Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Après le coup d'État du 26 juillet au Niger, la CEDEAO a mis en place une série de sanctions telles que les interdictions de voyage, les gels des avoirs, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension des relations commerciales et bancaires régionales, entre autres, des sanctions qui affectent aussi les populations et accentuent la crise humanitaire dans le pays. Pour en parler, Mohamed Oumfa a joint Mokhtar Daouda Abbas, responsable des opérations de Médecins sans frontières au Niger.
Ces sanctions sont à la fois à cibler des autorités du gouvernement, mais telles que les interdictions de voyage, les gels des avoirs, mais aussi c'est une sanction collective, si je peux me permettre de le dire, et surtout avec la fermeture des frontières terrestres aériennes, la suspension des relations commerciales des bancaires régionales, donc qui impactent l'économie du pays et sa population. Aujourd'hui, donc voilà, avec ces sanctions, ça commence à faire effet. Et on assiste déjà sur le terrain de voir l'augmentation des prix de certains denrées alimentaires, surtout des aliments qui sont importés, à savoir le riz, l'huile, le sucre, ainsi de suite.
Alors, pour rester dans le domaine de la santé, puisque c'est le domaine d'action prioritaire de Médecins sans frontières, quelles sont les conséquences de ces sanctions?
Bon, les conséquences de ces sanctions, donc, dans un premier temps, avec les fermetures des frontières, donc plus rien n'entre dans le pays. Donc, on parle de produits de première nécessité, donc des produits alimentaires, des médicaments. Ces sanctions aussi, ça touche l'électricité, parce que 70% de l'électricité que le pays, que le Niger consomme, provient du Nigeria. Donc, dans les 8 régions que le pays dispose, il n'y a que 2 régions qui sont autonomes, la région Niger et la région d'Agadez. Donc, ce qui fait que, déjà, si je peux me permettre de le dire, donc ça impacte les petits commerces, le fait qu'il n'y ait pas d'électricité. Et puis, de toute façon, on sait que l'électricité aussi, c'est quelque chose qui est utilisé par des structures hospitalières. Donc, ce qui fait qu'avec la coupure d'électricité, bien sûr, les hôpitaux aujourd'hui utilisent, fonctionnent en plein régime, donc avec des générateurs et des carburants. Et on sait qu'on a besoin d'électricité aussi pour faire fonctionner les chaînes de froid, les vaccins, ainsi de suite. L'électricité aussi pour pouvoir faire fonctionner certains matériels médicaux. Voilà, on est en pleine période de pic de paludisme. On sait que donc les structures comme la pédiatrie, ainsi de suite, on a de plus en plus des cas en augmentation. Bien sûr, même si ces structures, comme je le disais tantôt, disposent des groupes électrogènes, mais l'accès au carburant et maintenance peuvent devenir problématiques, donc lorsque c'est la seule source d'énergie disponible.
Alors dans ce contexte, quelles sont les attentes de Médecins Sans Frontières vis-à-vis des autorités nigériennes et vis-à-vis de la communauté internationale?
Bon, les mesures qui visent à asphyxier l'économie d'un pays, c'est beaucoup plus les pauvres qui payent les pots cassés. Donc du coup, on appelle les autorités, surtout la CDAO, à revoir leurs positions pour permettre qu'il y ait vraiment libre échange, donc voilà, le Niger avec les pays voisins, même si je sais qu'il y avait eu des négociations donc depuis mi-août pour faciliter un peu l'accès humanitaire à travers le Bénin, de certains items médicaux humanitaires à travers le port de Bénin et de Togo. On souhaiterait que cela puisse être un peu plus large pour que la population puisse en bénéficier.
Mokhtar Daouda Abbas, responsable des opérations de Médecins Sans Frontières au Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Retour sur le tremblement de terre au Maroc. Les recherches se poursuivent, mais les espoirs s'amenuisent. Notre correspondant au Maroc a tendu son micro à un rescapé d'origine ivoirienne. Il raconte les moments d'effroi après la catastrophe.
Mon nom, c'est à l'état civil, c'est Koumenan Nguessan Léon, plus connu sur le nom de Marvel House, artiste, chanteur, musicien. Je suis à Marrakech depuis environ, on va dire maintenant, un an. Ça a été une expérience assez spéciale. Moi, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Le vendredi 8 septembre, il était, on va dire, aux environs de 23h, 23h15, 23h20. Et voilà, nous on s'apprêtait pour le boulot, puis bon, la maison a commencé à bouger. Pour moi, c'était quelque chose d'assez traumatisant. Dans les débuts, on était affolés, on ne savait pas ce que c'était. Il y avait moi, il y avait ma petite sœur et il y avait mon petit frère. Tout le monde a commencé à courir, hein, dans tous les sens. Tous les habitants de la cité, tout le monde est sorti. D'autres sont sortis pratiquement à moitié nus, hein, faut le dire, parce qu'ils se faisaient tard. Voilà quoi, on s'est retrouvé en quelques secondes dehors. Par la grâce de Dieu, dans notre cité, on ne déplore pas de morts ni de décès et tout. Mais par contre, y a eu beaucoup de traumatismes. Les gens sont beaucoup traumatisés. Les gens, depuis, on va dire, que cet événement est arrivé, on commençait à dormir dehors, dans les jardins, parce qu'il fallait s'éloigner le plus possible des maisons, des agglomérations. Et les gens se disaient, peut-être qu'il peut avoir une réplique, ça peut reprendre. Durant 3 jours, hein, les gens ont passé la nuit dehors et ils étaient encore traumatisés jusqu'aujourd'hui.
Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à la communauté subsaharienne? Est-ce qu'il y a eu des victimes, des morts?
Pour l'instant, il faut dire la vérité, on n'a pas vraiment des nouvelles par rapport à la communauté subsaharienne. Et bon, pour l'instant, non, c'est plus, côté marocain, on voit des gens qu'on fait sortir sous des décombres, encore dans les petits villages, parce qu'ils habitaient, bien sûr, des agglomérations qui n'étaient pas assez solides, et tout. Donc, du coup, quand ça a tremblé, eux, c'est... Ils n'ont pas eu beaucoup de chance et tout, et c'est vraiment dommage, on déplore vraiment ça, voilà.
Koumenan Nguessan Léon, artiste ivoirien vivant au Maroc. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.